Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, pas de femmes d'aujourd'hui, mais version homme de femmes d'aujourd'hui. On commence la saison estivale et avec, chaque jour, un homme qui s'exprime, qui prend la parole et qui parle sans tabou et sans filtre. On y va pour mon premier invité.
Médien, Yasmine, version homme.
Bon, je pourrais pas dire aux hommes merci d'être mon homme du jour, parce que ça fera pas plaisir à mon mari. Mais voilà, on trouvera une autre formule. Je dis souvent merci d'être ma femme d'aujourd'hui, mais je ne pourrais pas dire merci d'être mon homme d'aujourd'hui. Voilà, bon, allez, on y va. Ali Lhababi, bonjour.
Bonjour, bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être mon premier homme de la série version homme.
Merci d'avoir pensé à moi et merci pour l'invitation.
Ben, ça me fait plaisir de vous avoir. Alors, Ali Lhababi. Vous êtes énormément dans le développement personnel, dans l'écoute des autres, dans le service pour les autres. C'est bien ça ?
Effectivement, c'est bien ça.
Alors, un homme d'aujourd'hui, sensible au développement personnel, est-ce que ça s'est fait par hasard ou ça s'est fait après un coup dur ?
Ça s'est fait par cheminement. Et ouais. Je pense, je dirais même un homme sensible tout court, sans même rajouter... un homme sensible au développement personnel, même si je le suis aussi. Et ça s'est fait par le chemin, par une découverte de soi, une quête de soi qui m'a amené à cette évidence de mieux me connaître, mieux se connaître et dépasser notamment certaines injonctions.
Et injections de pensée aussi, c'est des injections.
Il
est parfait, exactement.
ces hommes dopés dont je fais partie, dont j'ai fait partie, ces hommes auxquels on injecte et dopé à certaines croyances, fausses croyances et fausses pensées que j'ai dû... dont j'ai dû sortir et que j'ai dû un peu déconditionner.
Alors, je suis sûre qu'on va adorer cette série, cette nouvelle série version homme. La deuxième saison, en fait, c'est la deuxième saison, dans un format quotidien pour cette saison estivale. Quand vous dites, super. J'ai été dopée d'injections, de voilà ce qu'un homme doit être, justement. C'était quoi ? Ça passe par quoi ? Parce que nous, les femmes, on ne réalise peut-être pas, en fait. Est-ce que ça passe par l'éducation ? Est-ce que c'est la société ? Est-ce que c'est les médias ? C'est quoi ces messages ? Est-ce qu'ils sont directs, subliminaux ? C'est quoi ces messages ?
C'est un cumul. Et je pense que les femmes les voient aussi. C'est juste qu'elles n'ont pas peut-être la même lecture parce qu'elles ne le vivent pas. Elles ont d'autres... Ouais. d'autres injonctions aussi.
Absolument.
Mais c'est quoi ? C'est d'un point de vue... d'un point de vue langage, donc à travers les mots d'abord, les fameux Kunraje, Tarjil Shouya, toutes ces phrases-là, Majib Kish, Zayar Rasek, Khatrik Shouya, tous ces termes avec lesquels j'ai grandi, on est beaucoup à avoir grandi. Donc ça, c'est à travers la parole. Et après, à travers l'éducation, moi, ça va, j'ai pas une éducation extrêmement sévère, mais il y avait ce rôle de l'homme, du garçon, j'étais l'aîné de la famille, avec ce rôle à tenir dans la maison. Et après, il y a la société où on voit cette attente de la société marocaine. Je pense qu'on n'est pas les seuls au Maroc, ça concerne énormément de pays et de personnes à travers le monde, énormément d'hommes. Et c'est cette société qui attend que l'homme gère la famille, être mouldar. C'est très parlant, alors qu'en soi, c'est la femme et la mère qui gèrent beaucoup de choses. Donc en plus, c'est hypocrite et faux. Donc il y a ce côté-là, et puis il y a ce côté, cette image dans les médias de l'homme fort, viril, qui doit pas montrer d'émotions, intouchables, incassables. Et donc ça crée finalement ce refus de l'émotion et de la vulnérabilité pour les hommes, qui est totalement erroné. En fait, moi, je dis souvent que c'est anti-nature, et je suis très heureux parce que j'accompagne de plus en plus d'hommes dans cette dynamique et sur ce chemin de juste calmez-vous, c'est normal d'avoir des émotions, c'est notre nature, c'est notre nature humaine. Donc il y a toute cette folie sociétale et éducative qui casse quelque chose de naturel. Et bon, moi, je défends juste un retour à l'ordre et à la nature. Une émotion, c'est un côté biochimique, il y a un côté normal, il y a un côté spirituel dans ça, qu'il faut juste respecter, parce que quand on ne respecte pas le naturel, on se fait punir, notamment par le corps qui montre certains signaux parce qu'on n'a pas respecté des phases de vie, des émotions et un ressenti intérieur qui finit par se dégager à travers le corps et pas de manière très, très sympa et positive, plutôt par des maladies, des symptômes compliqués à vivre.
Alors, Ali El-Hababi, justement, à quel moment vous vous êtes dit « Stop, je laisse place à mes émotions. Mes émotions ont besoin de s'exprimer. Je suis un homme, ok. C'est mon genre, ok. Mais mes émotions ont leur place également chez l'humain que je suis.
Moi, ça a été, je sais pas, c'est assez tôt, assez tard, mais plutôt autour des 25-26 ans que ça a commencé, parce que je me suis rendu compte, que j'ai ouvert cette porte, c'est vrai que ça a commencé. J'avais un mécanisme qui était très simple, c'est que je ne partageais pas, je ne disais pas ce que je ressentais. Et donc je n'extériorisais pas, et donc je condensais, je résistais aux émotions, je les laissais à l'intérieur. Et en fait, donc moi, mon mécanisme était toujours le même, quelle que soit ma phase de vie, mais les événements, je résiste, parce que justement, je ne dois pas montrer, je suis intouchable, je suis très fort, jusqu'à que ça explose, soit en crise de nerfs, donc à travers la colère, mais une colère vraiment pas positive qui t'amène vers l'action, une colère juste de ras-le-bol, de dépassement, de me sentir dépassé, avec à chaque fois c'était associé à un symptôme physique où mon corps me faisait comprendre que j'avais trop pris sur moi, et donc je lâchais prise d'un coup un seul à travers un coup de colère, un moment de larmes très intense, parce que du coup je me refusais des larmes et de pleurer.
Ouais.
Exactement, parce que je suis un homme et un homme ne pleure pas, c'est évident. Bien sûr, je suis ironique. Donc, du coup, j'avais ce mécanisme-là que j'ai créé, un mécanisme auquel j'ai permis l'existence. Parce qu'en fait, il y a eu ce conditionnement, cette éducation, mais c'est moi qui suis responsable de ma vie et de ce que je traverse. Donc, c'est moi qui ai autorisé ce mécanisme de continuer à exister dans ma vie. Donc, je fonctionnais comme ça, et à un moment, ça m'a coûté trop cher physiquement.
Émotionnellement, parce que physiquement.
Ce qui s'est passé, c'était juste physiquement, c'était des contractions musculaires, mais pas en mode de post-sport, mais vraiment le muscle qui se des crampes et le muscle qui se tétanise, des crises de des crises de sanglots, de larmes disproportionnées parce que tout venait d'un coup et que j'avais trop laissé cumuler. Et puis surtout, il y avait aussi ce côté, là je parlais beaucoup de moi avec moi-même, mais il y avait surtout ce côté de moi avec l'autre, des reproches d'amis qui me disaient que je ne me confiais pas, qu'ils aimeraient plus que je sois là, et que j'étais très bon dans l'écoute, mais je ne livrais rien sur moi. Donc il y avait tout le temps ce côté super mystérieux qui ne servait pas mes amitiés, et puis encore plus dans les relations amoureuses avec les femmes, où c'était je ne m'ouvrais pas, je ne me livrais pas, je ne m'autorisais pas à me connecter pleinement à l'autre dans la relation amoureuse. Et à un moment, tu te dis juste que ce n'est pas possible et que tu passes à côté d'expériences de vie.
Mais moi, c'est quoi, c'est pour se protéger de quoi?
Se protéger d'être jugé, se protéger de paraître faible, sachant que moi, je faisais partie, et comme beaucoup, beaucoup d'hommes font cette erreur encore aujourd'hui, je faisais partie des hommes qui faisaient la confusion entre faiblesse et vulnérabilité. Donc, typiquement, si vraiment je vais dans la précision, dans une relation avec mes copines de l'époque, c'est-à-dire que partager un moment où je me sentais mal par rapport à quelque chose du travail ou un événement familial difficile ou une phase de vie difficile, jamais j'allais partager ça avec l'autre parce que j'avais pas envie qu'elle me voie faible. Alors c'était juste un moment de vulnérabilité parce que j'allais mal, comme on peut tous avoir un moment de mal-être dans nos vies. Et donc moi, c'était jamais de la vie, je vais montrer cette facette de moi à cette femme que je veux, avec qui je veux être, que je veux séduire et que je veux qu'elle me voie fort. Aujourd'hui, ça me fait rire parce que je me rends compte que ça m'a cassé beaucoup de relations et de création de liens. Et là, aujourd'hui, je suis tout à l'opposé. Et surtout que quand je me suis ouvert à cette puissance de la vulnérabilité, de la, de la nature et de la force des émotions et juste les accepter, de les laisser passer, parce que le mieux, c'est toujours de les laisser passer et de voir les messages qu'elles apportent. Ben, ça a tout changé à la fois dans ma carrière, dans mes capacités entrepreneuriales professionnelles, mais aussi et surtout dans mes relations aux autres. Aujourd'hui, je vais être plus reconnu pour ma capacité d'écoute, d'empathie, de vulnérabilité qui est, comme j'ai fait ce chemin-là et que la majorité des hommes reste quand même dans le schéma à passer, ben, je crée la différence juste en étant ce nouveau moi-même, homme d'aujourd'hui, du coup, que je considère plus ouvert aux sensibles, à la vulnérabilité, à la beauté des émotions.
Alors, est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes d'aujourd'hui comme vous, Ali ? D'hommes qui ont besoin, qui ont compris que leurs émotions étaient importantes, qu'elles n'étaient pas taboues, qu'elles n'étaient pas faiblesses, mais que la vulnérabilité est humaine ?
Je pense qu'on est beaucoup à être en chemin. Alors, je ne me considère pas comme un exemple, je ne me permettrai pas, mais je reste en chemin et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'interrogent. Moi, comme je prends la parole sur les réseaux et que je crée du contenu autour de ça, j'ai un peu il y a une reconnaissance sur le sujet qui me permet d'avoir des messages, des partages de certains hommes qui me disent que ça, voilà, ils ont besoin d'aide, ils se questionnent et ils veulent changer les choses. Donc, je pense que la route est encore très 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 longue parce qu'on change pas des choses comme ça, des fausses réalités qui sont très ancrées depuis des décennies. On les change, enfin même plus vu que ça date d'il y a très très longtemps, cette image du masculin et de l'homme fort, leader, intouchable. Donc vraiment, on parle d'un chemin et d'un changement sociétal qui va demander des années et des années. Mais pour moi, ça a déjà démarré. Et il y a beaucoup d'hommes qui rentrent dans cette prise de conscience, cette ouverture à quelque chose de différent. Et moi, c'est pas la majorité, mais je pense qu'on est au début et que ça continuera à prendre de plus en plus de place parce que les hommes en ont besoin déjà pour eux-mêmes. Leurs partenaires, leurs relations, les femmes qui les entourent en ont besoin parce que ce côté intouchable, incassable, insensible et non vulnérable des hommes, ça touche aussi les femmes, ça touche aussi les enfants dans l'éducation. Donc ça a trop d'impact pour que ça continue comme ça. Et je pense que la société, notre société, dans plusieurs pays, on en a besoin et que ça vient de démarrer, que ça va prendre de plus en plus de force et d'ampleur.
Est-ce que l'attitude masculine est aujourd'hui en train de changer ?
Je ne pense pas qu'elle ait besoin de changer profondément. Tu vois, si on part sur le côté se montrer plus physiquement ou prendre plus soin de son corps et pour les hommes, il n'y a pas de côté dans mon discours et dans ma vision et dans ce que je défends. Je ne parle jamais de côté efféminé des
bien
hommes.
Bien sûr, bien sûr. Non, absolument pas. Oui.
Ce que je dis, c'est qu'il faut faire la distinction entre virilité et vulnérabilité, émotion. Ce n'est pas parce que tu oses être vulnérable, dire ce que tu ressens, montrer un côté sensible et un côté émotionnel qui fait partie de toi parce que tu es un être humain avant d'être un homme. En tout cas, tu es un homme et tu es un être humain. C'est pas parce que tu fais ça que tu perds en masculin justement ou en force masculine ou que tu vas être tagué, enfin tu vas avoir un côté efféminé quelconque. C'est vraiment une confusion qui n'a pas sa place. Et typiquement pour parler de moi, j'assume complètement. Je suis un homme sensible. Je suis très fier de sensibilité. Pour moi aujourd'hui, c'est ma plus grande force dans ma créativité, dans ce que j'écris, dans ce que je propose au monde. Je suis très très fier de tous mes moments de vulnérabilité parce qu'il faut un courage de dingue pour accepter les moments difficiles et les voir en face, oser en parler, les partager, surtout les dépasser pour grandir et évoluer en tant que personne. Et vraiment là, ce que je dis, ça concerne les hommes et les femmes, mais en aucun cas ça ne touche et ça n'a touché ma virilité. C'est-à-dire que moi, je fais 1m90 pour 85 kilos avec beaucoup beaucoup de sport, j'ai plutôt un corps athlétique. Je ne suis pas le gars qu'on va embêter dans la rue. Et je dis et j'assume que je suis sensible, vulnérable et que j'en suis fier. Et donc, à aucun moment, j'ai senti que ma virilité ou que ma force masculine d'homme a été touchée. Au contraire, ça a été juste renforcé parce que je me suis assumer encore plus dans tout ce que je suis, justement, en tant qu'être humain, donc dans l'entièreté de mon être. Alors que, puisque je peux parler que de mon expérience et faire un avant-après, je me faisais du mal seul en refusant ces parties de moi-même, en refusant mes émotions, en refusant de me livrer aux autres, de m'ouvrir. Donc, il y a trop de positifs pour qu'aujourd'hui, je ne veuille pas partager ça, communiquer dessus et encourager, soutenir des hommes pour s'ouvrir à ça, parce que c'est très, très, très difficile. Tu évolues depuis 30 ans, 40 ans dans un schéma et tu dois changer ce schéma de pensée, d'action. C'est difficile et c'est normal que ça soit difficile.
Mais ça passe par quoi, justement? Comment on se déformate?
Ça passe, je pense, beaucoup à travers la parole, s'autoriser à parler, s'autoriser à communiquer sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Je pense que ça passe par un. Ça peut pas se faire chacun de son côté. Je pense vraiment que ça passe par un effet de groupe, de collectif, de communauté, de vision société différente. Donc ça veut dire que c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de podcasts, d'émissions, de contenus Instagram, LinkedIn et autres sur ces sujets-là, pour qu'il y ait ce sentiment de solidarité, de « ok, c'est un autre homme, s'il y a d'autres hommes qui y arrivent, moi aussi je peux m'ouvrir à ça ». Et donc, oui, c'est, je pense qu'il y a un gros effet, un très gros effet de groupe, de collectif. Et après, à l'échelle individuelle, c'est de regarder en face. Et normalement, moi je considère qu'on se doit tous la vérité, on se doit la vérité à soi et la bonté, la bienveillance aux autres. Si je me dois cette vérité à moi-même, à un moment je sais que je me fais du mal et que je me sens mal quand je me prive de parler de mes émotions, de les partager avec ma femme, avec ma partenaire, avec mes enfants potentiellement, au travail. Bon, je pense que c'est encore un autre niveau de science-fiction, d'oser parler, communiquer au travail. Moi, je pense que ça ferait beaucoup de bien aux entreprises et ça éviterait beaucoup de complications, de burn-out et de pression. Mais bon, je vais laisser ce sujet de côté. Mais c'est vraiment en parler, communiquer, s'autoriser à lâcher prise sur le sujet. Et surtout, ne pas se punir quand on le fait. Parce que parfois, même si on a envie et qu'on se dit qu'on peut oser parler, il y a cette voix du... par exemple, du père qui disait certaines phrases qu'on était petit, qui revient là dans le conscient ou l'inconscient. Et il y a ce sentiment de culpabilité, de honte qui vient avec. Et je pense que c'est important de se séparer de ça et de se dire qu'on a totalement le droit. Et de ne pas attendre la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine où on expose totalement, qu'on remet en question toute sa vie puisqu'on ne s'est pas autorisé avant, juste à lâcher prise un peu.
Vous le voyez, ça, des hommes qui font une crise de la quarantaine assez brutale, assez violente?
Moi, j'en ai vu et je le vois encore.
Ouais.
Et je pense que c'est très difficile et pénible à vivre parce que tout vient d'un coup. Mmh. Mais je trouve ça très, très sain au final et très beau en termes de finalité parce que c'est moi, j'appelle ça le cri du cœur. J'ai écrit tout un chapitre à ce sujet quand j'ai écrit mon livre. Et c'est vraiment cet homme de 50 ans qui se rend compte qu'il est en train de passer à côté. Et il y a ce coup du demi-siècle où je bascule encore plus dans une autre ère et je suis plus à mon plus jeune âge et je suis passé à côté de certaines choses en me refusant à moi-même la liberté de parler, la liberté de ressentir, la liberté de me sentir mal par moment. Et je trouve très positif ce cri du cœur parce que ça veut dire que ça y est, c'est le verre est plein, ça a trop duré et je veux changer, donc j'explose un peu, donc c'est une crise, ok. Mais le plus beau, c'est ce qu'il y a derrière la crise. Et ça, on le voit à travers l'histoire, à travers les crises économiques. Et c'est la même chose pour les crises, entre guillemets, humaines.
Humaines, absolument.
Que l'on dit chacun, j'explose parce que je mérite et je veux m'offrir mieux. Et je vais le faire et je vais y arriver après la crise. Mais oui, je le vois et je pense que ça va juste continuer à augmenter parce que les hommes se questionnent et c'est très bien qu'ils se questionnent.
Ben, vous me donnerez des contacts pour qu'ils puissent témoigner aussi de la crise de la quarantaine, de la cinquantaine chez l'homme. C'est important. C'est important qu'on en parle et qu'on dise que c'est normal et que ça arrive et que c'est humain. Peut-être pour finir rapidement, dernière question. Les parents, ils pensent quoi de ce changement?
Mes parents?
Oui.
Pardon? Alors, mes parents, ma mère m'a soutenu et me soutient dans tout ce que je fais. Elle est juste extrêmement fière de ce qu'elle dit, en tout cas de l'homme que je suis et que je deviens. Et mon père, Lehmo, était très fier aussi de tout le chemin que j'ai parcouru. Je pense que s'il était encore là, il serait très fier de ce que je défends et de ce que je deviens. Donc je dirais les deux sont très contents.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Ali El-Hababi, d'avoir été mon invité dans Version Homme.
Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup. Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance, dans ce rendez-vous masculin sur Média, et bien sûr en avant-première sur Média Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Média Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.